suffisant, peu motivé, distrait ou indiscipliné. C'est souvent les mêmes termes qui reviennent sur ce carnet qui m'est donné à faire signer. Il me manque un peu de structure, alors tous les mois je suis convoqué, je dis oui madame.
Aujourd'hui je vais vous parler d'évaluation. Ah, l'évaluation. On en parle depuis que l'école existe. Une école, c'est encore et toujours des cahiers, des programmes, des leçons, des exercices et de l'évaluation. Dans ce cadre, sans cette dernière, le système ne fonctionne pas. Et on arrive de moins en moins à trouver une évaluation qui permette au système de fonctionner comme on voudrait qu'il fonctionne. Voyons d'abord quel est son rôle ou quel rôle on lui attribue dans l'école traditionnelle. Lorsque des apprentissages programmés sont censés se réaliser collectivement de par l'action d'un enseignant et de par ce qu'il fait faire aux enfants, il faut bien que l'enseignant vérifie si cela a abouti aux effets attendus. Si les effets ne sont pas ceux attendus pour tous les enfants, logiquement cela signifie que l'action de l'enseignant n'était pas pertinente et qu'il faut qu'il la modifie. C'est ce que l'on appelle l'évaluation formative. Elle devrait être formative pour l'enseignant. Cela se complique quand l'évaluation fait percevoir que si une action a été pertinente pour quelques-uns, elle ne l'est pas pour les autres, ce qui est immanquable. Et ce qui devient même terriblement embarrassant, quand les évaluations sont collectives et placées à des moments précis, éloignés les uns des autres. Comment alors retrouver à quel moment quelque chose s'est mal passé pour les uns ou pour les autres ? Impossible de remonter le temps alors que le programme, lui, doit se poursuivre. On a bien essayé d'inventer l'enseignement individualisé. Mais dans la logique de la transmission des savoirs, j'ai envie de dire dans la croyance de la transmission des savoirs, il faudrait alors que chaque enfant ait son précepteur. L'évaluation par compétence semble une solution rationnelle. Le problème, c'est que l'on ne sait pas exactement quel ensemble de compétences doit être mis en branle pour permettre telle ou telle performance. Je vais vous donner une définition des compétences de Philippe Mérieux. Ce sont des savoirs renvoyant à des situations complexes qui amènent à gérer des variables hétérogènes et qui permettent de résoudre des problèmes qui échappent à des situations référables épistémologiquement à une seule discipline. En voilà une autre de Chomsky. Ce sont des systèmes d'opérations, actions réelles ou mentales, caractérisés par leur structure d'ensemble, est capable d'engendrer les diverses performances observables à un moment donné. Vous voyez l'inextricable problème. On ne peut évaluer que des performances sans vraiment savoir quelles compétences ont été mobilisées ou n'ont pu être mobilisées. L'évaluation formative est un leurre. À l'artificialité de l'apprentissage programmé, on fait succéder l'artificialité de son évaluation. Et on a la surprise de constater que, pour beaucoup, l'apprentissage censé être réalisé ne peut être réinvesti dans une situation différente et surtout une situation naturelle et réelle d'utilisation. Pas besoin de se référer aux enquêtes PISA. Combien de profs se sont offusqués des copies de bac bourrées de fautes? Et pourtant, ces jeunes adultes avaient bien fait auparavant moult exercices, moult dictées dûment contrôlées. Quand les profs du collège constatent que beaucoup d'enfants ne savent pas lire, auparavant, leurs collègues de l'école primaire ont pourtant vérifié et constaté que les enfants pouvaient lire à haute voix la page du manuel du jour, pouvaient même donner les réponses attendues par le maître ou la maîtresse. Et que dire des tables de multiplication dont pourtant chacun connaît la litanie ?
J'ai divisé, j'ai rédigé, j'avoue peut-être un peu brodé. Je n'ai pas dû comprendre la question donnée. Je suis encore hors sujet. Qu'est-ce qui se passe en moi devant cette page blanche ?
L'évaluation est aussi un moyen de pression que l'on pense être une motivation. Il est de fait que beaucoup d'enfants travaillent non pas pour apprendre, mais pour avoir la bonne note qui va en résulter, satisfaire l'enseignant et les parents. Les enfants finissent par ne plus être que ce qui est évalué d'eux, ce qui les qualifie par un chiffre. Qui es-tu ? Un bon élève ? Un bac plus 5 ? pas grand-chose d'autre dans l'espace scolaire. Ce qui n'empêche même plus d'être aussi un jour un chômeur. En fait, de motivation, l'évaluation est presque toujours un stress, comme ce qui n'est plus qu'une préparation à l'évaluation. Or, on sait qu'aucun apprentissage ne s'enclenche dans le stress. On a bien essayé d'introduire l'évaluation permanente, en particulier au lycée. On étalait la pression. Mais on retrouve le même problème. Cette évaluation ne peut que permettre de constater que tous les enfants ou adolescents ne sont pas dans les mêmes états langagiers leur permettant de réaliser telle ou telle performance. Alors que faire? Que faire quand on est dans une distribution frontale et uniforme de ce qui est programmé? Même si on admettait que suivant la méthode, la façon dont on distribue les savoirs, que les apprentissages devraient se réaliser, on ne pourrait plus faire l'impasse des rythmes différents. Il est prudent alors de faire ce que l'on appelle une évaluation sommative en fin de maillon ou en fin de la chaîne lors du bac, et soit faire repasser les non-conformes dans le maillon de la chaîne, c'est-à-dire les faire redoubler, soit les aiguiller dans des voies de garage que l'on ne cesse de créer, soit les jeter au rebut. C'est aussi un moyen de pression sur les enseignants, un moyen de comparaison dans la culture du résultat chiffré. Autrefois, le bon instit était celui qui obtenait de bons résultats ou certificats d'études, au certif. Je ne vous dis pas les pratiques que cela induisait et que l'on passe pudiquement sous silence. Du bachotage effréné pendant au moins 2 ans, jusqu'à la sélection des enfants qui étaient présentés à l'épreuve fatidique. Certes, j'exagère un peu, mais pas tant que cela. Il fallait que les enseignants résistent à cette pression. Ce pourrait être enfin ce qui est nécessaire au système éducatif pour qu'il auto-évalue son efficience. Mais qu'évalue-t-il en sachant qu'à tel moment, tant d'enfants du même âge savent ou ne savent pas faire une multiplication? Il peut éventuellement le constater, mais cela ne lui donne aucune indication, ni sur la normalité ou la normalité de ce constat, ni sur ses causes. La seule conclusion qu'il pourrait en tirer, c'est que ses finalités, produire des diplômés, sa conception de la transmission des savoirs, sont erronées. Cela, c'est une autre affaire. On n'arrivera pas à trouver une forme d'évaluation qui soit satisfaisante. C'est tout simplement normal dans la conception d'une chaîne éducative industrielle. Dans les maillons de la chaîne, n'y passent pas des objets, mais des sujets. Si vous avez suivi les chroniques précédentes et si vous avez toujours en mémoire comment les enfants apprennent à marcher et à parler, vous devinez que l'évaluation n'est pas un problème dans une école du troisième type. Nous aborderons cela dans la prochaine chronique.
Pour cette fois encore, je vais copier. J'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. Je vois pas ce que vient faire cette X plus 2 dans ma vie. J'abandonne, tant pis.